matin, nous voulons reconnaître que tu es réellement assis sur le trône. Et notre prière est levée de nos cœurs. Et que tu sois aussi assis sur le trône de nos cœurs. Pourquoi pas dans ton assemblée? Parce que ta présence, Père, c'est tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver encore, Seigneur, dans ta présence. Parce que tu veux non seulement nous faire du bien, mais tu veux, Seigneur, nous parfaire pour que nous puissions atteindre ta stature à toi. Seigneur, c'est pourquoi dispose nos cœurs et permets que ton Esprit Saint soit notre partage et que ce moment, Seigneur mon Dieu, puisse servir à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole et permets que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé. Ce matin, j'aimerais commencer par un verset biblique et une phrase que nous connaissons pratiquement. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3:16, la Bible dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, nous enseigner et nous corriger. » Ce n'est pas notre texte de base, c'est mon introduction. Donc, écrit pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger. C'est-à-dire la Bible que toi tu as, c'est écrit pour t'instruire, pour t'enseigner, pour te corriger, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsque nous voyons maintenant dans la science, on nous dit l'histoire, les cours d'histoire, l'histoire en famille, tout ça, l'histoire, nous est donnée pour nous enseigner. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas commettre les erreurs du passé. Ces deux choses, je les mets ensemble, je retrouve presque la même chose dedans. C'est-à-dire quoi? Toi et moi, nous sommes déjà enseignés. Mais est-ce que nous faisons attention à ces enseignements? Ou nous retombons dans les erreurs du passé? C'est là où j'aimerais que nous puissions considérer aussi dans la Bible une histoire qui s'est passée, une histoire qui devrait nous enseigner. Et peut-être considérer aussi d'autres histoires toujours dans la Bible et tirer des leçons ce matin. J'aimerais vous proposer comme thème ces petits refrains qui reviennent souvent dans les livres d'Ecclésiaste, vanité des vanités. Vanité des vanités. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, nous lirons les versets 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible dit: Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi d'Israël. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Toujours l'Ecclésiaste, il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage? Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, cette portion que nous venons de lire, c'est un peu comme la conclusion ou la synthèse de tous ces livres. Parce que si vous continuez dans la suite, vous allez constater que Salomon, ce roi, est en train d'expliquer pratiquement pourquoi est-ce que lui, il a dit que tout est vanité. Il explique, il dit, moi là, en tant que roi, j'ai eu la grâce de tout faire. Vous pouvez lire, hein, l'état me manquerait parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai eu la grâce de tout faire. J'ai touché à tout. Et souvent, nous, quand nous parlons de Salomon, nous les voyons en termes de femmes, n'est-ce pas? Il a eu toutes les femmes. Mais conclusion, vanité. Il a eu l'argent. Il a eu la gloire. Il a eu tout. Conclusion, vanité. Et c'est là où il dit, tout n'est que vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire, à la fin de tout ça, après avoir obtenu tout ça, tu n'as rien fait de bon. Conclusion, il n'y a rien. Si Salomon, qui a eu tout, peut dire ça, c'est-à-dire, ses paroles doivent nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Salomon, il a eu tout. Mais il dit, hein, tout ça finalement, je peux dire, c'est inutile. Parce que après avoir eu cette femme, tu n'as rien gagné. Tu ne trouves rien de bon. Il n'y a rien de changé. Après avoir eu autant d'argent, il n'y a rien de nouveau. Après avoir eu cette gloire, il n'y a rien. Et malheureusement, le cœur de l'homme a tendance à continuer à chercher encore plus. Tu as ça maintenant, tu vois, les jours où tu as $100, tu trouves que c'est peu, tu commences à souhaiter avoir 1000. Les jours où tu as 1000, tu t'arrêtes, tu souhaites avoir 1500. C'est ça le cœur de l'homme. Voyez. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et Salomon dit, tout ça c'est vanité. Parce que quand tu les as, après tu, ça change quoi dans ta vie? Ça te donne de devenir orgueilleux. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Mais bien aimé, j'aimerais que tu puisses réfléchir avec moi, parce que moi j'ai dit aussi ceci. Après avoir lu un peu parler de Salomon, j'ai dit, ta définition de ta vie, hein, la définition que toi tu donnes à la vie, déterminera la manière dont tu vas l'amener. Réfléchis. Ta définition de la vie détermine la manière dont toi tu vas mener ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je vais le dire dans d'autres mots. Pour certaines personnes, hein, nous sommes éternels sur la terre. On oublie même que la mort existe. Nous sommes éternels, nous sommes là, nous sommes permanents. Une telle personne va vivre comment? Différemment de ceux-là qui savent que nous ne sommes que des passagers. Vrai ou faux? C'est ça, c'est ma façon de voir ma vie. Il y a une autre personne qui a déjà défini sa vie comme ceci. Moi, je dois tout faire pour m'enrichir. N'importe quel moyen, l'essentiel, c'est que je puisse avoir de l'argent. C'est ma vie. C'est ça le désir de mon cœur. Une telle personne va aussi tout faire. Pendant qu'il y a une autre personne qui s'est dit, moi, je veux vivre dans le contentement. Ce que Dieu me donne, c'est ce qui est bon pour moi, je me contente. Bien-aimé, c'est une question de décision et de choix. Chacun sait ce que, comment il a défini sa vie. Mais malheureusement, vous savez quoi? Ces choses de foi dont je parle, hein, on n'y réfléchit pas. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas m'asseoir pour commencer à dire, comment est-ce que je vais définir ma vie? Non. Je me retrouve dedans entraîné par mes sentiments, entraîné par la convoitise, entraîné par mes désirs. Je me retrouve dedans. Et des fois, entraîné par ma culture. Dans ma famille, comment est-ce que les gens sont? Si les gens aiment l'argent, moi je vais devenir comment? Je vais aussi aimer l'argent. Si les gens aiment le fétiche, moi aussi je vais aimer le fétiche. Ta définition de la vie détermine comment tu vas la vivre. Il y a des gens, donc pour eux, moi, en tout cas, je dois être connu. La gloire. La gloire, moi c'est la gloire. Il y a d'autres, moi je vais être humble. Mais dans tout ça, vous allez voir les moyens qu'on va utiliser pour atteindre ce qu'on veut là. Des fois ce sont des problèmes. Mais j'aimerais encore redire encore ceci. Notre attachement, mon attachement aux choses de ce monde, mon attachement aux choses de ce monde, dirige ma façon de marcher. Si tu as Christ, ton attachement normalement ne doit pas être la même que ceux qui n'ont pas Christ. Et si tu as Christ et que tu es trop attaché aux choses de ce monde, remets-toi en cause. C'est une grâce. Dieu t'aime. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent, des difficultés que nous rencontrons, des maladies qui nous gardent comme captifs parce que Dieu veut nous détacher de quelque chose. Et nous prions pour que la situation change, la situation ne change pas. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit une personne comme Saul de Tarse. Hein? Nous le connaissons tous, non? Je vais reparler de lui mais dans autre chose. Cet homme-là, si Dieu lui avait dit gentiment, calmement, ne persécute pas les chrétiens. Selon vous, quelle aurait été sa réaction? Pour lui, c'était un plaisir, c'était sa vie, c'était ça. Donc, si Dieu lui avait dit gentiment, ne persécute pas, il n'allait pas les faire. Il a fallu quoi? Qu'il lui frappe de cécité. S'il n'était pas devenu aveugle le jour où il a rencontré Jésus, il n'allait pas aussi arrêter. Pourquoi? C'était ça, ça brûlait dans son cœur. C'était ça les désirs. C'était ça sa vie. Donc, si il ne fait pas du mal à quelqu'un qui s'est dit être chrétien, Saul de Tarse n'était pas en paix. Dieu a dit, attends. Attends, moi je sais comment je vais t'arrêter. Cécité. Il commence à tâtonner. Il ne sait plus où est-ce qu'il va trouver les chrétiens. Il tâtonne. Impossible d'avancer. Frère, la situation que tu as là, les problèmes là que tu es en train de rencontrer, Dieu est en train de t'arrêter dans cette situation-là que toi tu connais. Mais est-ce que tu peux arrêter? Des fois, je suis tellement aveuglé, je veux tellement avoir seulement ça. Mais Dieu dit, ce n'est qu'une vanité, arrête. Bien-aimé, même quand je parle de vanité, cela ne veut pas dire Dieu ne veut pas que tu aies l'argent. Cela ne veut pas dire Dieu ne veut pas que tu aies la maison. Mais Dieu a des principes. Tu peux tout avoir, mais si tu te bases sur les principes divins, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais selon le monde, c'est là où il y a un problème. Si tu le fais à l'encontre des principes divins, c'est là où il y a un problème. Bien-aimé, mis à part l'histoire de Salomon, nous avons plusieurs autres histoires qui nous montrent que la vie n'est qu'une vanité. J'aimerais revenir en arrière en prenant l'histoire de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph et nous connaissons l'histoire de Joseph et Potiphar. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Où il se sent maintenant à l'aise. Je suis dans Genèse 39. Il se sent à l'aise. Il s'est dit, bon, j'ai retrouvé quand même une famille, hein, où il y a quand même un papa, une maman, je peux travailler sans problème et tout. Il se sent à l'aise. Mais il y a eu l'histoire avec sa femme. Potiphar a mis Joseph en prison sans vérifier, sans enquêter. Ma femme a dit, mes sœurs, des fois, disons des choses, hein, honnêtement. Ne manipulons pas nos maris. Vous voyez? Ma femme a dit, et puisque ma femme a dit, automatiquement, Joseph en prison. Bien-aimé, moi, je me suis toujours posé la question. Les jours où Joseph est sorti de la prison pour devenir le numéro 2 du pays, quelle a été la réaction de Potiphar? Était-il encore en vie? Était-il déjà devenu très vieux? Je ne sais pas. Bien aimé, la vie, dans la vie, il faut éviter de faire des mauvaises choses aux autres. Nous ne savons pas de quoi est fait la vie. Nous ne savons pas. Remarquez avec moi, toujours dans l'histoire de Joseph, ses propres frères, dès que le papa meurt, parce que c'était comme si le papa était comme un paravent, dès que le papa meurt, tout le monde vient, pardonne-nous, hein, pardonne-nous. Mais quel a été le problème? Si vous allez regarder bien, vous essayez de creuser, vous allez trouver ce sont des petites choses pour lesquelles on peut trouver hein, donc une solution si nous parlons bien. Il y a des conflits que nous gérons qui ne sont que des vanités, des choses inutiles, des choses sans valeur. Mais maintenant, nous gardons même rancune, nous disons, toi, moi je ne vais même plus te parler. Mais si on vient creuser, on va trouver. Non, il n'y avait rien de grave. On pouvait trouver la solution à ces problèmes. Bien-aimés, ne nous laissons pas manipuler par l'ennemi, s'il vous plaît. Ne nous laissons pas manipuler par l'ennemi. Je me répète, Dieu veut que tu aies tout. Mais comment tu vas avoir tout ce que tu vas avoir? Et Dieu, puisqu'il veut que tu aies tout, il te dit, ces choses-là ne sont que des vanités. Ces choses-là, tu vas les avoir aujourd'hui. Demain, tu n'as même rien à faire. Dès que j'ai ce que je désire aujourd'hui, je me réveille le lendemain matin, je commence à désirer autre chose. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui vont acheter des habits qui coûtent cher. Finalement, ça remplit la maison. Et quand ça remplit la maison, finalement, on fait quoi avec? Encore une vanité. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Potiphar a fait. Mais pour une futilité, une vanité, et la femme de Potiphar a vécu combien d'années après le départ de Joseph? Et cette femme, le jour où Joseph est devenu numéro 2, qu'est-ce qu'elle est devenue? Heureusement que Joseph n'était pas rancunier. Heureusement, et ça, c'est le type d'enfant de Dieu que nous devons être. Ils font leurs histoires, moi je considère, bon, ça, tout ça, ce sont des vanités, ce sont des choses inutiles, ils ne comprennent pas. Je néglige, j'abandonne. Mais regardez avec moi une autre histoire, histoire de Acan. Je suis dans Josué chapitre 7. Nous connaissons tous comment ça s'est passé cette histoire. Je ne vais pas lire faute de temps. Bien-aimé, Acan a eu à prendre des choses qui étaient interdites. On avait déjà dit, si vous remontez au chapitre 6, on avait déjà dit que tout ce qui sera d'or, d'argent, donc tout ce qui est matière précieuse, tout ça, on consacre à Dieu. Mais lui, il a fait quoi? Il a convoité. Vanité. Frère, sœur, qu'est-ce que toi tu regardes avec des yeux d'envie là? Qu'est-ce que toi tu regardes? À quand regarder? Et il a regardé à gauche, à droite, il a dit, personne ne me voit. Mais à quand? Qu'est-ce que tu as trouvé? La Bible nous dit, il dit qu'il a pris un manteau de chinéard, je mets de côté, il a pris 200 cycles d'argent, il a pris 50 cycles d'or. Évaluons ça de nos jours. Je me répète, je crois que j'ai déjà parlé aussi de ça. Évaluons ça de nos jours. 200 cycles d'argent, ça vaut 2280 grammes d'argent. Hein? 2280 grammes d'argent. Maintenant, si tu pars même sur Google, là, tu lui demandes, un kilo d'argent coûte combien? Ça dépend de la qualité de l'argent en question, mais un kilo peut coûter $648. Dépendant de la qualité, hein, ça c'est le moins cher. $648. Acan ne connaissait même pas la différence, mais il a pris. Je parle de ce qui est moins cher. C'est par kilo, hein, 648. Maintenant, si tu fais fois 2280, les mathématiciens, ça va faire combien? 648 pour 2 kilos, 280 grammes d'argent. Si vous calculez bien, vous n'allez même pas dépasser $1,500. Je n'ai pas calculé. 1,400 et quelques. Voilà, on calcule pour moi. Donc, même si nous arrondissons à $1,500, prenons maintenant l'or. Non, ce sont des vanités. Il a pris 50 cycles qui, si tu mets en grammes, ça fait 570 grammes. Moins d'un kilo. Un kilo coûte $62,850. Comme lui, il est à la moitié, disons, même arrondi, même à $35,000. Hein? $35,000. Maintenant, si nous prenons $35,000, nous divisons par, en disant par exemple que c'est son salaire annuel, nous divisons ça par 12. Mettons 36 000 comme ça, la division est simple. $36,000. Nous divisons ça par 12 salaires annuels. Par mois, il a combien? 3 000, n'est-ce pas? Mais si nous calculons bien, c'est moins de 3 000. Maintenant, quand on découvre cette affaire, parce que tout un pays, toute une population vient de subir une conséquence à cause de lui. Pas à cause de quelqu'un d'autre, mais pour quelle valeur de choses? Si je mets les deux ensemble, je peux même dire moins de $40,000. Moins de $40,000, toute une population vient de subir. Bien-aimé dans les seigneurs. Et Acan lui-même, pour une vanité, des fois on ne réfléchit pas. L'histoire, des fois on ne réfléchit pas. Pour une vanité, $40,000, Acan a subi quoi? Lecteur de la Bible, vous êtes là. Acan a subi quoi? La mort de lui-même. Lui et toute sa famille. S'il avait 2 ou 3 enfants plus sa femme, ça fait déjà 5 personnes qui meurent pour $40,000. Faites un peu la correspondance. Ça marche? Peut-être que si lui ne gagnait pas beaucoup, son enfant allait peut-être gagner les 40 000 dollars là en 3 mois. Maintenant, il s'en va. Vanité de vanité, bien-aimé. C'est-à-dire, même quand nous recherchons là pour avoir beaucoup plus rapidement, nous sommes en train de nous faire du mal à nous-mêmes. Quelle histoire nous enseigne. Vanité de vanité. Tu es en train de regarder. Et ils ont une très belle maison. Ils ont une très belle Jeep. Oh, comment ils ont eu ça? Tu ne sais pas. Tu pars te battre pour avoir comme eux. Comment toi tu vas faire pour avoir comme eux? Tout ça, ce ne sont que des vanités. Il faut leur demander, eux qui sont dans la belle maison, sont-ils heureux dans la belle maison? Ils sont aussi des fois en train de regarder l'autre. Lui, il est bien. Hein? La maison en étage. Nous, ce n'est pas en étage. Vous voyez la vie? Vanité, ce sont des choses qui sont inutiles. Ce n'est pas que nous n'en avons pas besoin, mais cherchez à avoir ces choses selon Dieu, pas selon vous. Si vous les faites selon vous, ça devient une vanité. Saul, le persécuteur. Dans Actes 26, 11, c'est lui-même qui témoigne, c'est lui-même qui raconte. J'ai persécuté les chrétiens, je paraphrase. Et même là, j'étais en route pour aller encore persécuter davantage. Mais Saul, qu'est-ce que tu gagnes en persécutant les chrétiens? Tu les tues, tu les fais tuer, c'est bien. Mais tu gagnes quoi? Vanité. Tout ce que tu fais là, ce sont des illusions, des choses qui sont inutiles. Qu'est-ce que tu gagnes? Bien-aimé, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ce genre de choses? Qu'est-ce que tu gagnes? La Bible dit, le sang de la personne que tu as tuée comme ça te sera redemandé. Il y aura un jour où il y aura les jugements. Il y aura un jour où Dieu arrêtera tout. Il y aura un jour qu'on ne te condamne pas pour une vanité. Non, qu'on ne te condamne pas pour une vanité. Bien-aimé, qu'on ne te condamne pas pour une vanité. Quand il en parlait à ce moment-là, il regrettait. Mais il disait ce qu'il était. Il témoignait pour dire, regardez d'où moi je viens. Vous ne restez pas là où vous êtes. Venez là où je suis maintenant. C'est ça que lui cherchait. Bien-aimé, je ne connais pas ta marche. Mais j'aimerais t'ajouter Ananias et Saphira que tu connais. Actes chapitre 5 à partir du verset 1. Ananias et Saphira, une histoire que nous connaissons. Ces couples se sont entendus. Et ils ont dit, nous deux là, puisque nous avons vu quand même à l'église, on est en train d'élever les gens qui font des dons. Quand tu fais les dons qui est bien là-bas, et on va dire, le couple est tel. X, on va citer ton nom, ce qui n'est déjà pas une bonne chose. Mais Ananias et Saphira se sont entendus en disant, « Et ils donnent tout, nous on ne va pas tout donner. » Ah, bien-aimé, le psaume 101, verset 7, va te dire que tu ne peux pas mentir dans les choses de Dieu. Les menteurs ne vont pas tenir dans sa présence. J'aimerais bien que ça, nous puissions même lire. Psaume 101. Pardon, le verset 7. La Bible dit, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. » Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. C'était écrit. Ananias, Saphira, vous étiez au courant? Comment vous êtes venu mentir encore dans la présence de Dieu? Qui vous a forcé? Qui vous a forcé? Vous savez, lorsque nous faisons des choses des fois pour paraître, Dieu nous rattrape en plein milieu. C'est pourquoi évitons, Dieu veut que nous puissions être, pas que nous puissions paraître. Parce que lorsque toi tu vas chercher à paraître, tu vas faire au-delà. Or, ça ne sera qu'une vanité. Attention, soyons, hein, ne paraissons pas, mais soyons ce que nous sommes. C'est très important. J'aimerais nous ajouter l'histoire de cet homme dans Luc chapitre 12, 16 à 21, qui lui maintenant, après avoir amassé tout, hein, il a pris tout, maintenant il veut mettre dans ses greniers, il constate que, oh, je n'ai plus d'espace. Mais j'ai beaucoup de choses encore dehors, je n'ai plus d'espace. Il prend la décision, je vais tout casser pour reconstruire afin de pouvoir tout mettre. Mais la question qu'on lui pose, tu veux faire tout ça, c'est bien, mais ta vie, qui en a le contrôle? Je suis en train de paraphraser. Hein? Qui en a le contrôle? Les derniers mots se trouvent dans le Seigneur, c'est pas toi. C'est pas toi. Bien-aimé, tu peux te réjouir, tu peux faire des choses, mais si tu ne le fais pas selon Dieu, le problème, ça sera à ton niveau, c'est pas au niveau du Seigneur. Vanité de vanité, tout n'est que poursuite devant. Oh Seigneur, mais moi je veux avoir. Et puis quand je veux avoir, les gens vont quand même me regarder. Et puis ça va faire du bien. Et après? Et après? La question et après demeure importante et intéressante pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Et après? En réalité, lorsque nous essayons de considérer ces choses, j'aimerais tirer quelques leçons avec nous. J'essaie de considérer toutes ces histoires, en commençant par Salomon, hein, je descends Joseph et Potiphar, je descends Achan, je descends Saul, je descends avec les messieurs des greniers et tout. J'essaie de voir un peu toutes ces histoires, je tire quelques leçons. La première leçon, c'est la méconnaissance du plan de Dieu de sa vie ou dans ma vie. Souvent, nous ne connaissons pas, et c'est ça la réalité, nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour notre vie. Que tu aies 70 ans, que tu en aies 18, que tu en aies 30, qui peut me dire de quoi est fait demain? Personne. Qui peut me dire ce que tu deviendras demain? Personne. Il n'y a que Dieu. Et la Bible me dit que c'est lui qui a le contrôle de nos vies. Il a nos vies entre ses mains. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons être conscients de cela? Si je suis conscient du fait que ma vie est entre les mains de Dieu, je ne veux même pas me battre parce que je sais que Dieu arrange tout pour moi. Il est devant moi, il fraye un sentier. Comment il va le faire? Je ne saurais pas vous le dire parce qu'il est fait différemment pour celui-ci et pour celui-là. C'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, même dans les moments les plus difficiles, la période la plus sombre de ta vie, le moment où tu es vraiment dans les questionnements comme on nous avait dit, bien-aimé, que ce soit des moments où tu cherches plutôt à être encore beaucoup plus proche de Dieu que des hommes. Les hommes, nous allons te donner des mauvais conseils. Mais si tu es plus proche de Dieu, il va conduire tes pas. Et la Bible dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne te laissera pas seul. Il sera toujours avec toi. Bien-aimé, c'est pourquoi marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Regarde à Dieu. Même dans les moments où tu te demandes, Seigneur, faire n'est pas faire. Faire n'est pas faire. Abandonne-toi entre ses mains. Parce que deux fois, nous n'avons pas une réponse audible. Des fois, nous avons l'impression qu'il n'a rien dit. Mais si tu dis, c'est ma Seigneur, conduis-moi. Tu vas pas comprendre ce qui va se passer. Il va te diriger. Et au bout du tunnel, tu vas dire, Dieu a été fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la méconnaissance du plan de Dieu, j'aimerais juste parler de deux, trois choses. En réalité, tu ne connais pas ton avenir, comme je le disais. Mais c'est Dieu qui connaît. Et Dieu qui connaît ton avenir, la Bible dit, dans Jérémie 29, 11, il a des projets qu'il a déjà établis, élaborés pour toi. Et si tu parles même dans Éphésiens, il dit presque la même chose. Donc, c'est déjà établi. C'est-à-dire, pour Dieu, il sait pertinemment bien qui tu seras demain. Je ne sais pas si tu vas me dire le contraire. Moi-même ici, je me dis toujours, Dieu savait. Hier, je ne l'avais pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai compris très bien. Je disais à mes responsables, à un certain moment, j'ai dit, quand moi j'étais petite, mon jeu préféré, donc dès qu'on commençait à jouer avec les amis du quartier, là, on jouait, moi le jeu préféré, c'était moi l'enseignante. Vous choisissez les rôles que vous voulez, mais moi je suis l'enseignante. J'étais petite, petite, mais c'était ça. Et à cette époque, hein, c'est moi madame. Et puis j'ai oublié, j'ai grandi, j'ai oublié. Mais au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans l'enseignement et je me sens bien dans l'enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez dire que c'est un hasard. Avec Dieu, nous le disons, il n'y a pas de hasard. Il a le contrôle de ta vie. Jeune homme, jeune fille, ne te pose même pas beaucoup de questions. Nous avons marché en tâtonnant parce qu'on n'avait pas de guide. Mais toi, tu as un guide pour ta vie. Il y a un guide pour ta vie. Ne t'attends pas, mais pour que tu puisses bien marcher avec lui, fuis les péchés, fuis les œuvres de la jeunesse, accroche-toi à lui, il va conduire tes pas. Nous-mêmes qui sommes âgés, Dieu sait qu'est-ce que vous deviendrez encore demain. Il n'a pas encore fini avec nous. Si toi tu trouves que moi j'ai déjà 70 ans et plus, donc c'est fini. Moi, je vais te dire que c'est pas fini. Maman Kaboto, c'est pas fini. C'est pas encore fini. Parce que si c'était fini, il allait dire reviens à la maison. Mais tant qu'il n'a pas encore dit reviens à la maison, c'est-à-dire il n'a pas encore fini avec toi. Il a encore quelque chose qu'il veut faire avec toi. Peut-être que il y a une dernière âme que tu dois gagner. Et tant que tu l'as pas encore fait, parce que c'est son plan, il va permettre que son plan s'accomplisse jusqu'au bout. S'il avait déjà arrêté que toi tu seras ministre, hein, tu n'as même pas besoin de fournir des efforts. Tu n'as même pas besoin des intrigues. Tu n'as même pas besoin. Parce que lui, il est au contrôle de toutes choses. Qu'on l'éveille ou pas, Dieu a les moyens de sa politique. Bien aimé, si je m'arrête, je commence à vous raconter même ma propre vie. C'est toute une histoire. Je vous dis, c'est toute une histoire. Pourquoi? Parce que je suis une femme. J'ai été combattu parce que je suis une femme. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est Dieu. C'est pas un homme. C'est Dieu, je vous assure. C'est Dieu. Le temps me manquerait de vous raconter dans les détails. Mais je vous dis, c'est Dieu. Et si Dieu a pu faire pour moi, il peut faire pour vous. Il peut faire pour vous. Les tout, marchez dans sa crainte. Il a votre avenir dans ses mains. Quittez les histoires inutiles. Il a un plan. Il veut. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois t'habiller. Dieu sait que tu dois loger quelque part. Dieu sait tout ça. C'est pas parce qu'un jour, deux jours, il a permis que tu n'ailles pas que tu vas dire Dieu ne me connaît pas. Non, il te connaît et il a ta vie entre ses mains. Bien aimé, il a le contrôle de ton histoire. Donc, ne te laisse pas distraire. Que les vanités de ce monde, que ce que les gens font, que ça ne te distrait pas, reste fidèle et vraiment accroché à Dieu et tu verras sa gloire. Il n'a pas encore fini avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement qu'il connaît ton avenir, bien-aimé, toi tu ne connais même pas la durée de ta vie. Tu ne connais pas. Il y a celui qui a le plan de ta vie là. C'est celui qui connaît la durée de ta vie. Il connaît quand tu es né. Même les jours où tu étais conçu, il savait. Il a pris le contrôle parce qu'il savait que tu devais naître en telle année pour avoir 70 ans aujourd'hui. Il savait. Et il savait que dans ta marche là, tu devais passer dans telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Il savait. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Bien aimé, la durée de ta vie est entre ses mains. C'est-à-dire, les sorciers les plus grands, les plus forts de notre famille là, même quand il va s'élever, il va se liguer avec les autres, ils vont faire des choses, ils pourront peut-être me toucher, mais ils ne me tueront pas. Parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Oui. Ma vie est entre les mains du Seigneur. C'est là où la Bible nous exhorte, nous, à marcher toujours la tête haute. Ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en moi. Je marche avec le maître de l'univers. C'est lui qui contrôle le monde entier. C'est lui qui a les derniers mots sur toute vie. C'est lui qui est agissant. Je ne marche pas seul. Bien aimé, relève ta tête. Même devant cette situation-là qui te dérange, ces problèmes-là qui te fait pleurer, les larmes que le monde ne peut pas voir, les larmes que ici, là, nous voyons, ah, il est bien habillé, hein, il est bien habillé, hein, mais toi, dans ton cœur, tu sais que tu pleures. Bien aimé, même ces larmes-là, c'est lui qui connaît la durée de ta vie, a le devoir et le droit de les essuyer. Et il est le seul qui est capable de les faire. Mais pour qu'il puisse les faire, hein, fais-lui confiance. Et pour lui faire confiance, ça veut dire, je relève ma tête. Je relève ma tête et lui agit. Dieu aime quand on lui fait confiance. Vous savez, quand on parle de ces histoires de vanité, Job est un exemple. Job avait amassé beaucoup de choses. Il était riche, n'est-ce pas? Déjà, le chapitre 1 de son livre nous présente Job comme étant un homme riche. Mais quand il a tout perdu, il a dit, ni je suis venu dans ce monde, ni je vais rentrer. Qui part avec tout ce que nous amassons? Qui connaît qui va utiliser ce que nous avons amassé? Même si tu as fait les testaments, on les bouffe. Les jours seulement de ta mort, quelqu'un qui connaissait où ça s'est trouvé, il met dans la bouche, l'histoire du testament est finie. On commence à dire non. Il avait laissé les testaments. Non, je connais une histoire comme ça. Dès que le papa est décédé, la personne qui connaissait où s'est trouvé le testament est entrée vite dans la chambre. C'est parti. L'histoire du testament est finie. Vous allez retrouver ça où? Il faut que la personne vraiment ait un bon cœur pour dire, non, j'avais mangé ça. Ouais. Donc, non, c'est pour dire qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Toutes les autres choses-là, vanité, je me bats, j'amasse, je rassemble, je vais dire, je vais faire pour mes enfants. Oui, c'est vrai, tu fais pour tes enfants, mais est-ce que tu sais si tes enfants vont jouir de ces choses? Vanité de vanité, mais si tu fais confiance à Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu continues à lui faire confiance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire en sorte que tes enfants après toi ne manquent de rien. Parce qu'il a dit, les enfants des justes, il en prend soin, même lorsque ce juste-là n'est plus là. Alors, pourquoi ne pas lui faire à lui confiance? Faisons confiance à ces dieux. Bien-aimé, une autre leçon, à part les plans de Dieu là, une autre leçon que moi j'ai tirée, c'est par rapport au travail. Aujourd'hui, par exemple, nous ici au Congo, nous aimons la loi de la facilité. Tout ce qui est gain facile, nous apprécions. Dès qu'on dit seulement, vous savez, sur Internet ces jours-ci, si tu pars dans les sites X, Y, on m'a raconté ça la semaine, tu pars dans les sites, là, si tu remplis comme ça, tu donnes $20, trois jours après, on te donne 60. Certains connaissent, hein? J'entends des rires bizarres derrière moi. Ne faites pas ça, j'en parle pour que nous puissions savoir. Nous aimons les gains faciles. Vous allez voir seulement les gens partir. Et l'histoire, Bindo, vous connaissez? Nguma Melinyo Sokei. Même là-bas aussi, Bindo Wanazali, Nguma Wanazali. Attention, gain facile, tout ce qui est gain facile, c'est une vanité. Attention, ne vous laissez pas distraire. Le temps me manquerait de commencer à raconter moi. Non, ne vous laissez pas. Même si c'est un pasteur. Même si c'est un pasteur. À partir du moment où vous regardez ce qu'on vous demande de faire, gain facile, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Pourquoi? La Bible dit, dans Genèse déjà 3:19, tu gagneras l'argent à la sueur de ton front. Tu gagneras à la sueur de ton front. À quand? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir? J'ai convoité, j'ai pris. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu gagneras à la sueur de ton front. Mais maintenant, nous aussi, nous avons compris que Dieu a dit, nous gagnerons la sueur de notre front. Mais vous savez ce que nous faisons? Nous sommes allés aussi à l'autre extrême. On n'a plus le temps pour travailler, on n'a plus le temps de repos, on travaille, parce que je dois gagner la sueur de mon front. Et quand je travaille beaucoup comme ça, je gagne aussi beaucoup. Hein? Vous savez, il y a des endroits encore aujourd'hui, il y a les heures supplémentaires, non? Donc, si je travaille un peu plus chaque jour, ça s'ajoute un peu. Et quand je viens à l'église, ah, ma sœur, on ne te voit plus. Le travail me retient vraiment. Le travail. Attention, vanité de vanité. Le travail te retient. Mais avant que tu ne travailles, tu étais dans l'église avec nous, mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Et si on a une activité spéciale, tu étais là. Et ensemble, nous prions, Seigneur, donne du travail, Seigneur, donne du travail. Maintenant, tu as le travail, tu n'as plus le temps pour Dieu. Attention. Mais si on t'invite, pendant que tu travailles là, on t'invite par quelqu'un en disant, viens récupérer l'argent. Le mercredi à 17h. Tu vas faire quoi? Le travail. Tu vas aller récupérer, hein? Là, tu vas trouver les moyens de demander la permission. Mais pour Dieu, tu trouves que non, Dieu comprend. Dieu comprend. De toute façon, il sait que je dois travailler et il sait que j'ai besoin d'argent pour nourrir ma maison. Et il sait, oui, il sait, mais il sait aussi qu'il a les moyens de te faciliter les choses pour que tu ne puisses pas souffrir. Bien-aimé, les dieux de la multiplication, hein? Il y avait 5 pains, 2 poissons. Les dieux de la multiplication agissent même dans nos maisons. Il agit même dans nos maisons. C'est ce que nous, chrétiens, des fois, nous ne nous rendons pas compte. Les dieux de la multiplication agit même dans nos maisons. Si et seulement si nous nous laissons la place. C'est là où j'aimerais dire, tout ce que nous faisons autour du travail là, attention, on n'a plus le temps de repos. Plus le temps de repos. Mais si vous lisez Deutéronome... Excusez-moi, j'ai l'impression que quelque chose a bougé ici. Je vérifie juste. Deutéronome. Chapitre 5. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Chapitre 5, à partir du verset 12. Une recommandation qui vient déjà à partir des 10 commandements. Observe le jour du repos. L'être humain a besoin du repos. Des fois, nous écourtons nos vies nous-mêmes. Qu'on les veuille ou pas, des fois, nous écourtons nos vies nous-mêmes et puis nous disons, Dieu, non, c'est pas Dieu, c'est nous. Oui, c'est nous. C'est là où, bien-aimés, nous devons faire vraiment attention. Comment est-ce que nous vivons? La troisième leçon pour terminer, c'est savoir attendre son dû. Attendre son dû. Pas les dûs de quelqu'un d'autre. Pas les dûs mélangés. Je vais prendre mon dû, les dûs de Papa Élie et tout. Et puis je vais dire à Papa Élie que lui n'a rien, mais c'est moi. Moi j'ai ma part, mais on ne t'a pas donné ta part. Mais moi, j'ai déjà pris. Non. Attendre son dû. C'est important. C'est important. J'essayais de regarder la Bible dans Matthieu chapitre 21 à 16, l'histoire des ouvriers de la dernière heure ou encore la 11e heure. Bien-aimés, comment est-ce qu'il fallait répartir les dûs? Oui. Mais chacun doit être conscient de ce qui lui revient. Si moi je suis dans ce qui ne me revient pas, c'est-à-dire je suis en train de faire ce qui est contraire à ce que Dieu me demande. Et si je suis dans ce qui est contraire à ce que Dieu me demande, c'est moi-même, je suis en train de me bloquer. Je ne bloque pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Dans ce monde, tout ce que nous avons bien aimé, je conclue par là, dans ce monde, tout ce que nous avons bien aimé, tout, je dis bien tout, Dieu a mis ça dans ce monde pour nous, mais il a établi des principes bibliques pour nous aider, nous, à pouvoir jouir de ces choses. Et si nous jouissons de ces choses dans le respect des principes de Dieu, bien aimé, nous allons réellement vivre la bénédiction. Mais si nous vivons d'une mauvaise façon, là, attention, tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité. Nous nous préparons pour l'éternité. Parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels sur terre. Mais nous nous préparons pour l'éternité. Et c'est un choix. Toi, tu te prépares. Pourquoi? Peut-être que toi tu crois que tu es éternel, je ne sais pas. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Élève ta voix et dis quelque chose au Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'a touché dans tout ce qui a été dit. Mais lève ta voix et parle à ton Dieu. Et si tu trouves que tu as besoin qu'on puisse prier avec toi et pour toi, peut-être parce que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, ce qui est le point de départ de la marche avec Dieu, tu peux juste te lever rapidement là où tu es, nous allons ensemble prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché, quelqu'un qui trouve qu'il va recevoir Jésus dans son cœur? Peut juste s'élever là où il se trouve et nous allons ensemble prier. Y a-t-il quelqu'un? Merci bien-aimé, merci. Merci bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut qu'on puisse prier ensemble avec lui? Merci, merci, merci. Merci à vous qui vous levez. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre alors que nous avons nos têtes baissées que nous voulons prier ensemble? Merci. Merci bien-aimé, merci. Merci. Et alors que nous serons en train de prier, est-ce que nous pouvons aussi faire cette prière demandant au Seigneur de nous aider dans notre marche de tous les jours, à savoir faire la différence entre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour ne pas tomber dans cette vie de vanité, mais vivre pour la gloire de Dieu? Y a-t-il une dernière personne qui veut s'élever alors que Papa Abéry s'avance, s'il vous plaît? Merci. Merci à toutes les personnes qui se sont levées. Merci, merci. Merci à vous qui vous levez encore. Merci. Merci, ce n'est pas un spectacle. Merci. Merci.
Précieux Père Céleste, un autre jour est celui-ci. Tu as réuni le peuple pour annoncer tes oracles, en montrant au peuple ce qui est agréable à toi et ce qui ne l'est pas. Tu es le Dieu tout-puissant, de sorte que Seigneur, quand tu parles, au-dedans de nous, nous nous sentons interpellés. Parce que Seigneur, tu ne parles jamais en vain. C'est quand tu sens qu'en nous, il commence à y loger de choses qui n'ont pas de valeur devant toi, que tu envoies ta parole pour nous guérir. Et ce matin, tu nous guéris de la vanité, car la chair nous joue des tours, alors que l'esprit est là disposé afin de nous conduire dans les verts pâturages. Prends-nous en charge ce matin, Seigneur, afin que nous distinguions ce qui est vil de ce qui est utile. Ta parole est la vérité. Tu l'as envoyée pour que nous vivions par elle et que cette vérité guérisse nos âmes. Seigneur, tu tiens tout dans ta main et tu as tout sous ton contrôle. Ce matin, prends-nous en charge pour que, Seigneur, nous te regardions comme celui qui a le dernier mot en tout. Ça ne sert à rien de courir ni d'être pressé parce que tu maîtrises le temps et tu maîtrises les circonstances de la vie. Tu les fais concourir pour notre bonheur. Les exemples n'ont pas manqué dans la parole de ce matin. Nous, nous confessons devant toi. Guéris-nous. Et bénis ta servante. Bénis-la, Seigneur, parce qu'elle a parlé ouvertement pour que nous arrêtions de croire que le monde est une réponse pour nous. C'est toi la réponse à nos questions. C'est toi la solution à nos problèmes. C'est toi qui as tout dans tes plans pour nous, car tu es le créateur de toutes choses. Merci pour toutes ces âmes qui t'ont donné leur vie ce matin. Laisse que tout soit pour la gloire. Apprends-nous à bien compter nos jours, Seigneur. Apprends-nous, car c'est toi le terminus même de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.